Vous allez bien?
Oui. Parfait. Donc, ce matin, on va aller prendre un moment ensemble pour observer dans la parole un peu comment l'Éternel veut être adoré. Pas comment est-ce qu'on doit se comporter le dimanche matin, pas est-ce qu'on a le droit de lever les mains, pas ces questions-là. Simplement, pendant que je préparais le message, pendant que je cherchais dans la parole, qu'est-ce que l'Éternel voulait qu'on étudie ensemble, qu'on regarde ensemble ce matin? Où est-ce que l'Éternel voulait qu'on mette notre attention? Et toutes les fois que je cherchais ça, je retournais au texte de ce matin, je revenais tout le temps à ce texte-là. Et le texte dans lequel je vous invite à tourner, c'est Malachie, chapitre 1, au verset 6. Et on va lire jusqu'à 14. Malachie, chapitre 1, verset 6 à 14. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et pour simplement aider à se mettre en contexte, Malachie est écrit un peu avant les 400 ans de silence. Et on a ici un peuple qui est revenu à l'Éternel, un peuple qui a le temple, a toutes les façons d'adorer, mais qui le fait d'une façon qui déplaît à l'Éternel. Et ensemble, ce matin, j'aimerais qu'on se pose la question, comment est-ce que l'Éternel veut être adoré? Pas d'un point de vue technique, pas d'un point de vue mythique, mais vraiment d'un point de vue palpable et vrai dans votre vie. Et on doit se poser les questions avant de plonger dans le texte ensemble. Est-ce que ça peut nous arriver d'être bloqué ou insatisfait de la façon qu'on va adorer Dieu? Est-ce que ça m'arrive de minimiser l'impact que Dieu peut avoir dans ma vie? Comment est-ce que je vois mon adoration pour Dieu quand je me présente le dimanche matin à l'église, quand dans ma vie, j'ose aller devant l'Éternel en prière, quand dans ma vie, j'entre dans le lieu très saint, la présence même du Dieu qui a créé l'univers au complet. Et que je me présente devant ce Dieu-là et que je lui demande quelque chose d'aussi banal que de bénir ma nourriture. Ou que je lui demande peut-être de sauver l'âme de quelqu'un que j'aime. Comment est-ce que je me présente devant l'Éternel? Et la question qu'on va regarder ensemble, ça marche comme ça, le mépris spirituel. Est-ce que dans ma lâcheté spirituelle, parce qu'on est toutes lâches un peu, je dis un peu, mais est-ce que mon adoration va souffrir de ma lâcheté spirituelle ou de mon mépris pour les grandes vérités qui sont disponibles dans ma vie? Et le texte de Malachie s'adresse à des sacrificateurs, s'adresse au peuple de Dieu, choisi, sorti d'Égypte par la main puissante de Dieu, qui connaissent tout ce que Dieu leur a demandé. Et on va le regarder. Et ce que Dieu leur reproche, c'est pas de ne pas le faire. Ce n'est pas de ne pas venir. Ce n'est pas d'être nécessairement loin. C'est, excusez l'anglicisme, il n'y a pas d'autre terme dans ma tête, c'est de botcher. Si vous ne savez pas c'est quoi botcher, vous demanderez à quelqu'un. Bon. Bâcler, si ça vous aide, moi ça ne m'aide pas. Mais tout le monde est rendu. Malachie chapitre 1, versets 6 à 14. Et juste avant qu'on aille en lecture, on va aller dans le Saint des Saints devant l'Éternel ensemble pour lui mettre ce texte, pour lui présenter ce texte et lui demander de préparer nos cœurs à ce qu'on soit prêt. Éternel notre Dieu, on veut s'approcher de toi ce matin, tous ensemble d'un même cœur, afin que tu puisses préparer notre âme à recevoir ta parole. Que tu puisses préparer nos cœurs, Seigneur, afin qu'il n'y ait aucun péché, aucun esprit malin, aucune rancune qui vienne ternir ta parole dans notre cœur. Que tu puisses, Seigneur, vraiment faire que ça puisse nous transformer. Et que, Seigneur, si ce qui est dans ce texte ce matin doit changer quelque chose dans notre vie, Seigneur, et qu'on ne soit pas rebelle, mais bien qu'on soit apte à écouter, apte à changer, et qu'on puisse même combattre ensemble pour arriver à des résultats concrets dans nos vies. Seigneur, merci de nous avoir donné ce texte et de nous avoir réunis. Et maintenant, permets-nous ensemble de t'adorer. Que chacune de nos prières, de nos pensées soit une adoration pour toi. Et que non seulement moi, par ma parole, mais tous les autres qui vont écouter et même peut-être prier, puissent le faire en ton nom. Pour ta gloire, Seigneur. Amen. Donc, Malachie chapitre 1, versets 6 à 14, qui se lit comme suit. « Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? » dit l'Éternel des armées. « À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée. Ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Et vous dites, quelle fatigue! Vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains? Dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui vous est sacrifié au Seigneur une bête fétide. « Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. » Donc ce matin, on va regarder un peu comment est-ce que l'Éternel veut être adoré. Parce que ce matin, vous avez remarqué dans le texte, l'Éternel parle au peuple et ne lui dit pas « Vous avez pas offert de sacrifice. » Et il ne dit pas non plus « Vous n'avez pas offert ce que j'ai demandé à la base. » Ils ont apporté un sacrifice à l'Éternel. Mais si on va dans la loi, on voit que l'Éternel choisissait de façon précise et concrète non seulement l'animal, mais aussi la façon de le présenter et les caractéristiques de l'animal à présenter. Et dans chaque situation avait certaines caractéristiques. Pour ceux qui s'intéressent, il y a des sacrifices, on devait tout vider, on devait tout laver l'intérieur de l'animal. On sortait les boyaux, on les lavait, puis après ça, on les brûlait. On les brûlait pas si on les avait pas lavés. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait un plan précis et concret. Et dans chacun des sacrifices, l'Éternel faisait passer un message bien précis. Et dans ce texte, on peut en arriver avec le premier, dans le fond, reproche que l'Éternel fait. Et on va le fractionner en trois. On a l'attitude que les gens avaient face à Dieu. On a le mépris qu'on avait face à l'offrande. Et ensuite, on a le mépris des récompenses. Parce que dans la loi de l'Éternel, les sacrificateurs avaient la responsabilité de s'assurer que le peuple amenait ce qui était demandé par l'Éternel. Et donc, moi, je pouvais amener l'animal que je voulais. Je pouvais amener ce que Dieu avait demandé, le meilleur animal de mon troupeau, mon boc, mon vrai, et l'offrir à l'Éternel. Et dans sa parole, Dieu dit, « Mettez-moi à l'épreuve. Si vous m'offrez le meilleur, je vais vous bénir encore plus. Votre meilleur va avoir l'air de rien comparé à ce que je vais vous donner. » Mais je pouvais aussi prendre n'importe quel petit Joe Clinclin de mon troupeau, l'apporter à Dieu. Ça me coûtait pas mal moins cher. Et c'était aussi quand même acceptable selon les standards. Est-ce que les standards du peuple sont les mêmes standards que Dieu? Est-ce que vos standards sont les mêmes standards que ceux de Dieu? Pour vous donner une idée, si vous pensez que oui, on peut lire Job, chapitre 40. Job, au chapitre 40, je veux simplement vous le lire. Job, chapitre 40, versets 1 à 6. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Vous connaissez l'histoire de Job. Job est riche, puissant, il a tout ce qu'un homme peut rêver d'avoir. L'Éternel lui enlève sa famille. Il reste assis dans un tas de cendres avec des pustules et puis il se gratte le dos. Ses amis viennent le voir, le découragent encore plus. Et Job, tout le long de sa vie, dit « Mes standards sont bons, je suis bon ». J'ai été correct, et ce que je vis, je ne mérite pas de le vivre. Et l'Éternel, après qu'il ait débattu pendant 39 chapitres, pendant 30 quelques chapitres avec ses amis, l'Éternel se présente à Job et vient le voir. Et au verset 40, l'Éternel est un peu en train de montrer à Job la stupidité de son raisonnement. Et on va lire ensemble ce qu'il lui dit. L'Éternel lui dit, « Saint terrain comme un vaillant homme. » Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? As-tu un bras comme celui de Dieu? Une voix tonnante comme la sienne? Orne-toi donc de magnificence et de grandeur. Revêt-toi donc de splendeur et de gloire. Répands les flots de ta colère et d'un regard abaisse les hautains. D'un regard humilie les hautains. Écrase sur place les méchants. Cache-les tous ensemble dans la poussière. Enferme leur front dans les ténèbres. Alors, je rends hommage à la puissance de ta droite. Pensez-vous que l'Éternel va rendre puissance, va rendre gloire à la puissance de votre droite? Mais Job, au début, pensait que oui. Après ça, il a changé d'avis. Mais dans le texte, pour vous aider à le comprendre, j'aimerais qu'on aille au verset, je vais vous le dire, qu'on aille au verset quand l'Éternel parle de son nom. Dans tout le long du texte ce matin, l'Éternel parle de son nom. Vous avez méprisé mon nom. Vous avez méprisé mon nom. Toute la terre rend gloire à mon nom. Mais vous, vous le profanez. C'est quoi le nom de l'Éternel? Est-ce que c'est
Dieu?
Adonai? Jéhovah? Ça veut dire quoi, le nom de l'Éternel? Vous êtes au courant, vous savez que quand la parole de Dieu parle du nom de l'Éternel, on parle de sa personne. On parle de ce qu'il est en entier, son œuvre, sa gloire, sa personne, sa personnalité, ses réactions, tout ce qu'il a fait, c'est le nom de l'Éternel. Et le nom de l'Éternel, il y a une petite phrase qu'on peut le résumer. Le nom de l'Éternel, c'est ce qu'il est. Et pour ne pas dire tout ça, on l'appelle Jéhovah, Dieu. Mais on sait qu'on parle à celui qui a tout créé. Et donc, quand on s'approche de ce Dieu-là, on doit se souvenir que c'est le même Dieu qui, son nom, a été présenté au Mont Sinaï, Exode 20, et que son nom était présent, sa personne était présente sur la montagne sainte, et que personne s'est approché, personne a osé s'approcher, tout le monde était loin. Et quand sa voix a retenti, le peuple est tombé à genoux, puis ils ont dit à Moïse, « Toi, vas-y, nous autres, on va rester ici. » Pas mal ceux qui ont dit, « Non, toi, vas-y, on a peur de l'Éternel. » J'ai une question pour vous, est-ce que Dieu change? Est-ce qu'on a le même Dieu que celui qui était présent à Sinaï, puis qui a donné la loi d'une façon ferme, puissante? On a le même Dieu. Est-ce qu'on a le même Dieu qui a fait descendre sa gloire dans le Saint des Saints, quand Dieu a donné un endroit où mon nom sera adoré, le tabernacle ou le temple, et que la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu descendait, palpable et visible dans le lieu très saint? Est-ce qu'on a le même Dieu qui, si on entrait dans le lieu très saint, impur, on mourrait? Est-ce qu'on a le même Dieu? Est-ce qu'on croit qu'on a le même Dieu? Est-ce qu'on vit comme si on avait le même Dieu? C'est une bonne question. Et c'est à ce Dieu-là a dit, « Vous m'offrirez une bête parfaite. Vous m'offrirez le meilleur de votre troupeau. » Et dans une offrande, ce n'est pas juste les animaux. Vous pouvez offrir ce que vous voulez, mais vous offrirez quelque chose à Dieu dans certaines situations. Et David avait l'attitude, si on tourne dans le livre des Chroniques, chapitre 21, verset 24, David dénombre le peuple. L'Éternel lui avait interdit de dénombrer le peuple, afin qu'il ne mette pas sa confiance dans le bras de l'homme, mais dans la parole de Dieu. David a dénombré le peuple pareil. Donc Dieu a dit que pour te punir, mais ton peuple va être attaqué par l'Éternel lui-même. L'ange de l'Éternel allait détruire le peuple, pas au complet, mais il allait punir David. Et David se présente, il court, et Dieu dit, tu vas présenter quelque chose à telle place. Pour ne pas vous donner tous les détails, ce n'est pas très utile. Mais quand David se présente, c'est David, c'est le roi. Fait que l'homme chez qui David se présente dit, prends tout, je te donne tout. Mais David répond, je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Car je vais offrir à l'Éternel, je veux le payer d'un prix d'argent. Je veux offrir quelque chose à l'Éternel qui m'a coûté quelque chose. Quelque chose à l'Éternel qui va vraiment me faire réaliser que je l'ai offusqué, que je l'ai offensé, que je lui ai désobéi. Je vais offrir quelque chose qui va me faire rappeler ça. Et ensuite, l'Éternel s'est apaisé. Et les sacrificateurs avaient un rôle, et je vous explique tout ça pour que vous soyez conscients de pourquoi Malachi a un message comme ça. C'est que si les sacrificateurs, ici, méprisent le nom de l'Éternel, en n'ayant aucun respect et aucun honneur pour l'Éternel, si le peuple, les sacrificateurs, ne faisaient pas le tri parmi les sacrifices du peuple, si on amenait une bête chétive, une bête qui était aveugle, une bête qui a une patte cassée, une bête qui ne sert à rien, est-ce qu'on rend gloire à Dieu? Est-ce qu'on travaille dans le même sens que Dieu? Est-ce qu'on est conscient si j'offre quelque chose de botché? Est-ce que je suis en train de réaliser que je l'offre au Dieu qui a créé l'univers? Et Dieu dit, offre-la donc à ton gouverneur, à ton Pilate, à ton Yves Lévesque, à ton Justin Trudeau, Barack Obama, whatever. Botche ta job, là, il va offrir ça au président. Fais une soupe Lipton, tu mets des bouts de saucisse dedans. Présente-les au président. Te recevra-t-il bien? S'il aime la soupe Lipton, peut-être. Mais je pense pas. Donc, pourquoi est-ce que le peuple apportait des sacrifices à moitié? Parce qu'il n'y avait aucune crainte de l'Éternel. Il n'y avait aucun respect pour Dieu. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'on est comme ça. Là. Mais, premier point, il y avait un mépris de l'offrande elle-même. Il y avait même un mépris des récompenses. L'Éternel leur a dit, fais cela afin que tu vives. Fais toutes ces choses. Fais ces sacrifices. Prépare-les afin que ma colère ne soit pas allumée contre le peuple. Et si vous avez lu Exode Nombre, vous savez que le peuple a passé très souvent à deux doigts de se faire exterminer. Et si vous savez, si vous avez lu la révolte de Corée dans Nombre 16, vous savez que la seule raison pour laquelle le peuple n'a pas été détruit, c'est parce que Moïse et Aaron ont pris l'encens dans le lieu saint et ils sont allés entre le peuple et Dieu et ont pris les deux trucs qui font de l'encens, monsieur Cusinon, et ils les ont agités entre le peuple et Dieu et ils ont crié « L'Éternel ne détruit pas ce peuple! Éternel ne détruit pas ce peuple! » Et savez-vous pourquoi l'Éternel était choqué contre le peuple dans la révolte de Corée? Parce que le peuple voulait tuer Moïse et Aaron. Il voulait s'en débarrasser parce qu'il était tanné de leur leader. Et qui a sauvé le peuple? Les deux leaders que le peuple voulait tuer. Ils ont pris l'encens et ont dit, Dieu, détruis pas le peuple. Est-ce que le peuple a une crainte de Dieu? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez une crainte de Dieu? Parce que on est appelés ensemble à vivre pour Dieu. On est appelés à être des exemples pour le peuple. Est-ce qu'on est semblable dans notre approche de Dieu? Si, dans ma vie, je vis dans le péché, je néglige la parole de Dieu et j'en ai rien à tirer de ce que la Bible dit parce que je veux vivre ma vie, est-ce que ma conscience m'accuse? Est-ce que je suis conscient de la valeur que Dieu a, de ce que Dieu a fait? Est-ce que je suis apprécié ce que Dieu a fait pour moi? Son sacrifice. Est-ce que je fais des efforts pour arriver à rencontrer les critères de Dieu? Pas qu'on peut y arriver sur terre, mais est-ce que je fais des efforts? Est-ce que j'apprécie? Est-ce que j'ai bonne conscience? Si on regarde à Christ, son œuvre, c'est l'exemple parfait. Je vous ai parlé qu'on allait regarder le reproche que Dieu fait au peuple et au sacrificateur en trois façons. L'attitude, l'offrande et les récompenses. L'attitude du peuple, assez méprisable. Si on regarde à Christ, quelle était l'attitude de Christ? Philippiens chapitre 2, verset 5. Vous connaissez tout ça par cœur. Lui qui était l'égal à Dieu a accepté de se dépouiller, de prendre le même corps que vous et moi, de devenir un simple homme et de vivre une vie parfaite. Non seulement ça, mais d'aller et de mourir sur une croix. Être maudit pour le peuple. Devenir péché. Être brisé, détruit à un tel point qu'il était irreconnaissable. Non seulement ça, mais la Trinité divine complète et parfaite allait porter le prix de nos péchés, de nos iniquités. Est-ce que je réalise que si je botche mon adoration, si je viens à l'église à toutes les semaines, pas préparé, parce que c'est tellement long, C'est tellement difficile. Est-ce que je viens à l'église en me disant tout simplement, je m'en viens chercher mon Red Bull pour la semaine?
Si vous ne savez pas c'est quoi du Red Bull, c'est bon. Mais prenez-en pas, c'est pas bon pour vous autres.
Est-ce que j'utilise l'église pour me nourrir? Parce que j'ai une chose à vous dire. L'adoration, c'est donner à Dieu, pas recevoir. On est tous appelés à adorer l'Éternel. Mais on a toute l'attitude, souvent, une certaine lâcheté. On dit pas mal comme le peuple. Malachie chapitre 1, verset 13. Verset 12, 13. Mais vous, vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée. Ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Et vous dites, quelle fatigue! Et vous le dédaignez.
Oh, frère, c'est pas évident, là. Faut que j'aille à l'église. C'est dimanche. Mon voisin, il dort. Moi, je me lève. On va à l'église.
Mais si je vous pose la question, vous voulez toutes avoir une relation avec Dieu vraie, palpable, évidente dans votre vie. Vous voulez toutes que votre voisin soit capable de dire, lui, il est différent. Je vais aller lui demander pourquoi. Puis là, je vais pouvoir partager l'Évangile avec mon voisin. Vous voulez toutes que vos enfants suivent. Vous voulez toutes que vos enfants connaissent l'Éternel. Est-ce que vous avez lu la parole avec vos enfants? Est-ce que vous avez prié avec vos enfants? Est-ce que vous avez pris le temps de mettre les efforts afin que les gens autour de vous soient conscients que vous êtes une nouvelle créature?
Non, c'est difficile. Dans le temps, il aurait fallu que, juste pour prier, vous alliez chercher un taureau, vous l'ouvrez, vous le videz, présentez ça, puis là, peut-être que Dieu va accepter que vous alliez dans sa présence. Peut-être! Peut-être que non. On pense-tu à ça? Le dimanche matin, je n'irai pas à première heure.
Veillez tard hier, adorer Dieu. Pas évident.
En plus, c'est difficile. Adorer Dieu dans le temps, ça aurait été quoi? Je m'en viens, je pogne mon bœuf, je prépare ça, je présente ça sur l'autel, j'attends qu'il ait fini de brûler, le sacrificateur s'en vient, prend le meilleur bout, j'offre le reste. Tous les dimanches. Je pense qu'on serait moins que ça ici.
Mais nous, c'est quoi? On est appelé à adorer Dieu. Il nous a donné quelque chose de vraiment difficile. Vous prendrez du pain, vous le briserez entre vous, et rappelez-vous, ceci est mon corps. Puis, c'est pas obligé d'être du pain brun. Tu sais, il est fin. Après ça, il dit, vous prendrez le fruit de la vigne, du vin, du jus de raisin, et vous le boirez. Ceci, souvenez-vous que ceci est mon sang. Ça ne devient pas du sang, là. Ceci est mon sang qui a été versé pour vos péchés. Plus besoin de faire des sacrifices. L'attitude de Christ, psaume 40. Voici, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste. Mais moi, je dis, voici, je viens. Tu m'as créé un corps. Pourquoi? La seule raison de l'incarnation de Christ qu'on va probablement fêter dans 2 semaines, c'est pour aller mourir sur la croix. La seule raison, c'était pour que son corps soit brisé, défiguré et détruit par l'homme. Porter le péché que moi j'ai fait, c'était la seule raison de l'incarnation. Mourir. Qui ici connaît l'expression « être né pour un petit pain » ? La seule raison qui a été créée, c'est pour mourir. Qui est in. Mais Christ l'a accepté parce qu'il avait les regards tournés sur les récompenses. À quoi Christ pensait sur la croix? Quelle est la raison principale pour laquelle Christ est allé sur la croix? Pour la gloire de son Père. Afin que toutes nous autres qui botchent, on soit pour la gloire de Dieu. Sauvé, racheté, transformé. afin qu'on puisse aller dans le Saint des Saints et crier avec les anges, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » C'est la seule raison pour laquelle Christ est venu sur terre. Et vous y avez accès. Parce que non seulement il l'a fait, mais il l'a fait avec la bonne attitude, avec le but. Comme dirait Paul, je garde les yeux fixés sur le but. J'oublie ce qui est en arrière et je fonce. Est-ce qu'on va être comme les sacrificateurs puis le peuple? Quelle fatigue! Ce que la table de l'Éternel rapporte un aliment méprisable. Ça vaut pas la peine. J'ai déjà lu ma Bible, je la connais, je le sais que Jésus est mort pour moi. Jésus m'aime, Dieu m'aime. C'est correct. Est-ce que c'est ça l'Évangile? Dieu aime tout le monde. Vous n'avez pas l'air sûr? Est-ce qu'on se laisse transformer par la connaissance de Dieu? Vous donnez une idée? Vous n'êtes pas appelé à offrir des holocaustes. Vous êtes appelé à offrir votre vie. Que celui qui veut me suivre prenne sa croix et me suive. Romains 12, Maurice nous a partagé ça ce matin. Offrez donc vos corps comme des sacrifices vivants, sains et agréables à Dieu. Il ne parle pas de vous chopper un doigt, il parle d'offrir votre vie pleinement. Et la parole de Dieu, est-ce que c'est simplement Christ est mort pour vos péchés, acceptez-le et maintenant allez vivre votre vie de péché? Non. L'Éternel nous appelle à être transformés. Allons de victoire en victoire par la parole. Et Dieu nous dit à nous, êtes-vous lâche? Si c'est le cas, donnez-vous un coup de pied là où ça fait mal. Parce que vous êtes tous appelés à regarder, à tourner les yeux vers Christ. Et si on regarde, il n'a jamais arrêté, il a toujours vécu. Et il est allé jusqu'au bout pour vous racheter. Il a accepté de prendre un corps comme nous afin d'être tué, détruit, porter les péchés et ensuite, il est ressuscité. Il est ressuscité parce que la mort ne pouvait pas avoir de victoire sur lui. Il est ressuscité parce qu'il est mort pour la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu demandait à ce qu'il soit ressuscité. Elle l'ordonnait. Qu'il soit ressuscité parce qu'il ne pouvait pas rester mort parce qu'il avait payé le prix. Et maintenant, il nous donne ça. Vous rendez-vous compte que Dieu va nous permettre d'être participants à sa gloire. Sa gloire qui protège depuis le commencement du monde. Et il va nous permettre de faire partie de ça. Il nous le donne. Puis nous autres, on botche. Je m'inclus là-dedans. On bâtit tout. On est toutes lâches. On va rentrer dans un nouveau bâtiment. Est-ce qu'on va bâtir aux 2,25 les pieds? Ou est-ce qu'on va arriver préparé? Est-ce qu'on va arriver avec un but de glorifier Dieu dans chacun de ses membres? C'est moi, c'est vous, c'est tout le monde. Est-ce qu'on va être une lumière ou est-ce qu'on va se cacher? Est-ce qu'on va être motivé par les récompenses que Dieu nous promet? Est-ce qu'on va faire comme les sacrificateurs? Oh, Dieu a dit de faire ça, je vais le faire, puis ça finit là. Parce que je ne mettrai pas mon cœur. Si c'est botché, c'est pas grave. Est-ce que je vais négliger mon sauveur? Et si vous n'êtes pas certain d'avoir envie de vous battre, eh bien, je vous rappelle simplement que Dieu n'est pas un Dieu bonasse. Si vous n'êtes pas certain que votre vie est en règle, je vous implore à aller au pied de la croix et à lui remettre votre vie, de lui faire confiance qu'il va vous transformer. Et si vous n'êtes pas transformé, mais vous êtes la même personne qu'avant d'avoir cru, ben battez-vous le derrière puis dites, Seigneur, montre-moi ce que dans ma vie marche pas. Fais que je sois pas le même demain. Et il l'enlèvera peut-être pas tout de suite, mais il va vous permettre d'avancer de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et si vous ne gagnez pas tout de suite, ça ne veut pas dire d'arrêter de se battre. Ça veut dire de se relever et de continuer. D'accepter que peut-être on n'est pas assez fort. De se lancer au pied de la croix et de lui demander, « Sauve-moi, transforme-moi, afin que je ne sois pas botcheux. Transforme-moi afin que je sois acceptable. Afin que quand je me présente devant toi, ben, je continue de tomber à genoux et de te dire merci. Je ne tolérerai pas le péché dans ma vie. Je ne serai pas lâche. Je ne serai pas quelqu'un qui s'assoit sur ses lauriers. Mais je vais être quelqu'un qui va chercher Dieu de tout son cœur afin de le trouver. Et si vous avez de la misère, je vous implore, priez. Allez voir un ancien, allez voir un frère, allez voir n'importe qui va vous prier. Et si quelqu'un vient vous voir, mettez-le devant l'Éternel, donnez-le à Dieu. Soyez une église conséquente. Si vous croyez que ce matin, vous êtes complètement à l'opposé de ce que j'ai dit, que vous autres, vous faites tous les efforts possibles, tout le temps, ben venez me voir et donnez-moi un cours. Mais si ce n'est pas le cas, prions afin que l'OCCM soit une lumière. Que Dieu continue de travailler dans notre vie et que son salut, son fils, juste son fils et son œuvre soient proclamés.
Là, j'ai dépassé autant qu'on m'avait enlevé. On va wrap up. On va prier. Et on va aller et on va être une lumière. Amen.
Seigneur notre Dieu, on veut s'approcher de toi. On veut entrer dans ton sein des saints, Seigneur, ta présence même, en sachant que tu es un Dieu glorieux et que malgré que le péché s'attache à notre chair, Seigneur, tu nous permets d'entrer et tu nous écoutes. On veut te prier ce matin, Seigneur, afin que tu laves notre cœur à tous et chacun, que tu le laves d'une eau pure. Et Seigneur, malgré la douleur, malgré la souffrance, et malgré notre petitesse, Seigneur, on t'implore de transformer nos vies afin qu'elles te soient agréables. Et on sait, Seigneur, que tu vas laver nos vies par ton Fils encore et toujours. Ton œuvre à la croix est complète et parfaite. Une fois pour toutes, Seigneur, on est sauvés. Mais on ne veut pas botcher. On ne veut pas s'asseoir sur nos lauriers. On ne veut pas prendre en compte, Seigneur, une connaissance qu'on a de toi et mépriser le reste. Seigneur, on veut être des guerriers. Et Seigneur, si on est ici ensemble et que certains d'entre nous souffrent, que certains d'entre nous ne sont pas certains de où ils se tiennent, on te demande d'étendre ta main et de les prendre dans tes bras. De leur montrer, Seigneur, ton œuvre. De les appeler à toi par ton amour, déversé en chacun de nous par Christ. Qu'on puisse vraiment les atteindre. Et que tu puisses continuer de changer notre cœur. Aide-nous à s'offrir comme des sacrifices vivants. Aide-nous à réaliser le coût de l'offrande. Aide-nous à te ressembler, Seigneur. Toi qui étais Dieu, tu es venu. Tu nous as sauvés par ta mort. Et par ta résurrection, tu nous promets plusieurs grandeurs. On te remercie, Seigneur. Et on s'en remet à toi pour cette semaine. On s'en remet à toi pour cette journée. On s'en remet à toi pour tous ces moments. Bénis-nous, Seigneur, par ta parole. Amen.